Cette émission vous est proposée avec la lumineuse participation de AHL9, Christian Gillet, Darak, Benoît Bouillard, Cotentien, Jonathan Fay, Béniche, Nicolas Février, Eric, Ludovic Lardis et Jérôme Seine. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, vous connaissez, c'est l'émission qui vous résume en 1h30 environ l'actualité tech, internet et gadgets des deux dernières semaines de manière simple, compréhensible et agréable et sympathique à écouter parce qu'on est avec des gens sympathiques. Parce que le principe que j'observe, c'est que si vous vous embêtez, eh ben, c'est pas vraiment la peine d'écouter et vous allez arrêter d'écouter. Donc on essaye d'être drôle, amusant, intéressant, intelligent, tout ça. Je dis bien on essaye, hein. Je dis pas qu'on y arrive à tous les coups. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt confiance parce que j'ai deux co-animateurs de talent, à savoir Jeff, qui nous retrouve tous les deux épisodes comme d'habitude. Comment ça va, Jeff, depuis la Silicon Valley ?
La Silicon Valley va bien. Énormément d'activités, beaucoup de création d'entreprises, énormément de funding, mais ce n'est pas une bulle.
Est-ce que bon. C'est un truc que tu te répètes à toi-même tous les soirs avant de t'endormir?
Oui, ou tous les matins et tous les soirs. Ce n'est pas une bulle. Ce n'est pas une bulle. Ce n'est pas une bulle. Bon, alors, c'est ma bulle. N'y touchez pas. C'est ma bulle. N'y touchez pas.
Ok, très bien, merci d'être là Jeff. Et on a aussi, alors on fait le grand écart mondial, puisqu'on a aussi de l'autre côté de la planète, Cédric Ingrand qui nous rejoint du Japon à l'aube avec le soleil qui se lève sur Akihabara, n'est-ce pas Cédric ?
Ouais, c'est pas une légende, le pays du soleil levant, je suis en train de le voir se lever très lentement au-dessus d'Akihabara. Je suis dans un de mes endroits préférés du monde, pas seulement Tokyo, mais même cet hôtel-là, enfin, qui est, toi qui connais le coin, qui est posé sur la station d'Akihabara, qui est l'hôtel le plus pratique du monde, et sur lequel tu as une vue sur tout le quartier. Et d'ordinaire, je suis pas debout à l'heure où le soleil se lève, donc je sais pas si je dois te remercier, mais le cœur y est.
Oh, mais écoute, moi, c'est ce qu'on disait avant le début de l'émission. J'étais l'année dernière pour ma lune de miel au Japon et je regardais le soleil se lever sur Shinjuku. C'était magnifique. C'était un spectacle somptueux. Donc, oui, moi, je dirais que ça vaut le coup de se lever.
Non, ça vaut le coup.
Mais en plus, comme il est assez tôt, après, tu peux aller au marché aux poissons de Tsukiji et tu vas te faire des sushis à 9h du matin. Bon, on y était allé avec ma femme. C'était les meilleurs sushis que j'ai mangés de ma vie. Donc, je te les recommande.
Ouais, chez Sushi Boon, là, juste à côté. Ouais, non, c'est remarquable.
D'accord.
Pour
bon, tu connais
30
déjà.
Euros, vous mangez des sushis qui vous en coûteraient 200 d'ordinaire. Oui, non, je connais. Mais ça, c'est pas idiot maintenant que tu m'en
parles. Ah, tu vois. Mais pourquoi tu es au Japon, tiens? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est juste comme ça ou?
Est-ce que vraiment j'ai besoin de raisons? Est-ce qu'il faut des raisons pour venir au Japon? Non, le Japon est une raison qui suffit. Non, j'ai quand même des raisons professionnelles. Claire, il y a cette semaine le salon du broadcast, un salon qui s'appelle Interbi, qui existe depuis 50 ans, où sont exposées toutes les technologies de la télévision professionnelle.
D'accord.
Donc c'est son excuse.
Oui, voilà, pour aller au Japon. Tu me dis que je coupe de temps en temps, j'ai ce problème de temps à autre, j'espère que ça va pas trop continuer.
Je vais voir ce que je peux faire. Tu as coupé deux fois, oui.
Oui, bon, je vais vérifier. Normalement, pour les auditeurs, ça devrait pas s'entendre, donc j'espère que vous réussirez à me comprendre. Je vais voir, je crains qu'on ne puisse pas le corriger tout de suite là, mais je verrai ce que je pourrais faire après. Je vais essayer d'ailleurs de couper un truc pour voir si ça peut corriger ça pendant l'émission. Donc si je disparais et que vous ne me retrouvez pas, eh ben on reprendra les choses juste après. Hop, je vais désactiver une carte et normalement par la magie. Oui, c'est très très compliqué. Hop, voilà, une carte désactivée. Et si vous m'entendez toujours, j'espère que ça ne coupera plus. Vous me préviendrez si ça continue. Vous m'entendez toujours? Vous ne m'entendez plus? Eh ben, écoutez, c'est très bien. On va donc rappeler Et donc, nous voilà, ça remarche. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on se lance immédiatement dans les news de l'émission, à savoir des choses sur Microsoft Office et Microsoft qui change complètement de cap. C'est un petit peu le Gengis Khan, le moment Gengis Khan de Satya Nadella, qui change absolument tout et qui ne laisse que la terre brûler derrière lui. On a aussi Facebook qui fait des trucs un petit peu étranges qu'on n'attendait pas vraiment non plus. Enfin, un petit peu moins révolutionnaire, avec qui se soucie vraiment de la vie privée des gens. C'est incroyable, ça. Et on aura aussi des news et rumeurs, bien sûr, après tout ça. Je vous propose qu'on parle un petit peu de Microsoft et de ce qui s'est passé dans la vie de cette entreprise, de Microsoft, avec cette annonce assez incroyable, selon laquelle les appareils, tous les appareils mobiles, à savoir Office, enfin iPad, iPhone et Android, mais pas Windows Phone, ce qui est d'une ironie folle, allaient désormais bénéficier d'une version d'Office complète, sans avoir besoin de payer et sans abonnement, et qui en plus a un partenariat avec Dropbox. Et donc, on peut utiliser tous ces fichiers directement dans Dropbox sur tous ces appareils sans payer un sou, avec des versions quasiment complètes. Ma question...
C'est le quasiment.
Oui, mais enfin, c'est quand même des versions assez, assez complètes déjà. Est-ce que Satya Nadella est tombé sur la tête ou qu'est-ce qui se passe ?
Non, je pense que c'est relativement logique, parce qu'ils ont bien vu que le modèle, il est un peu forcé. Tu pourrais pas payer aujourd'hui Microsoft Office, si tu l'achetais sur iPad, le même prix que tu le payais il y a quelques années sur PC ou sur Mac, ce serait impensable.
Donc, c'est sûr. Tu peux remonter un petit peu ton volume, Cédric, t'es un peu bas.
Avec plaisir. Ouais. Donc tu peux pas le payer le même prix, c'est impossible. D'où ce changement de stratégie, pas seulement celui-là, mais celui de passer à Office 365, c'est-à-dire de passer à un modèle fondé sur l'abonnement. Ils viennent de rajouter un truc: si tu es abonné, entre guillemets, à Office 365, tu as maintenant une capacité de stockage illimitée.
C'est invraisemblable. Je veux dire, oui, je suis tout à fait d'accord pour que on ait des accès plus faciles aux technologies Microsoft pour ensuite payer certaines choses. Mais à un moment, faut bien qu'on paye les certaines choses en question. Là, qui va payer et qui va payer pourquoi? Enfin, il y a plus rien.
Faut jamais oublier que, comme avant, sur Office, ceux qui vont payer d'abord, ce sont les entreprises. Chez qui ils vont lâcher des licences en nombre, en disant: alors j'ai 2500 personnes, donc ça fait 2500 licences. Alors ce sera géré un tout petit peu différemment, c'est pas chacun n'ira pas s'abonner sur le web, mais pour Microsoft, je pense que ça va rapporter peut-être un petit peu moins d'argent, mais pas tant que ça. Mais ils sont quand même à un moment où ils sont menacés par deux fronts. D'un côté, le modèle des appareils tactiles, des tablettes, etc., qui fait que tu peux plus vendre vraiment du logiciel à 300 €. Et de l'autre côté, l'énorme menace, et ce jusqu'à l'intérieur des entreprises, c'est quand même... alors attends, oui, je peux rebaisser mon volume.
ouais, t'es encore un peu menace, fort en fait, je crois que Skype a mis un moment à s'adapter.
Jusqu'à l'intérieur des entreprises, c'est Google Docs, c'est les Google Apps, ouais, qui font que tout à coup, à moins que tu aies besoin de créer des documents élaborés, tes besoins sont remplis par des outils cloud qui sont gratuits ou pour l'essentiel gratuits. Donc voilà, ils avaient pas, on peut s'en étonner, mais ils avaient pas d'autre choix que de s'adapter.
Ça veut dire que là, ils offrent finalement effectivement tous leurs services et leurs logiciels aux utilisateurs privés, et par contre, ils vont se faire leur argent sur les entreprises. C'est sûr qu'ils sont encore très présents sur l'entreprise, mais enfin, ça fait quand même très étrange de se dire... Bon, et puis en même temps, je dis, ils offrent leur suite logicielle aux utilisateurs privés. Il faut pas oublier que ces suites logicielles sont essentiellement prévues pour la productivité, et que quand on essaye d'être productif sur ce type d'appareil, c'est ensuite, à un moment, on va vouloir passer sur vrai ordinateur de bureau. Et donc là, par contre, c'est pas gratuit. Là, il faut payer.
Oui, et c'est, tu viens de refaire le modèle économique exact, je pense, la réflexion exacte qu'ils ont eue chez Microsoft, en disant, évidemment, alors on dit que c'est des versions limitées, en fait, c'est pas vraiment des versions limitées, on va dire que c'est des versions pas entièrement complètes, mais déjà, et je trouve que c'est un bon point, c'est des versions qui suffisent amplement pour toi, en tant qu'utilisateur final, à aller lire dans n'importe quel document qu'on t'envoie. Et c'est vrai que c'est ça qui est embêtant, quoi. Je t'envoie un PowerPoint de la dernière version. C'est quand même sympa d'avoir un truc qui est pas juste un reader, qui va pouvoir te permettre de mettre quelques modifications. Et tu l'as dit, le jour où tu vas pouvoir passer aux choses sérieuses, tu vas quand même passer sur un Mac ou un PC, et là tu auras envie d'avoir la suite complète.
Oui, c'est sûr. Et puis bon, il y a quelques trucs qu'on ne peut pas faire dans la version, dans les versions tablette et téléphone, mais c'est pas non plus. Bon, il y a quand même quelques trucs pour vous donner une idée. C'est des choses dans Word, par exemple, on peut pas changer l'orientation de la page. On peut pas insérer ou modifier des word art. On peut pas ajouter de couleurs personnalisées aux formes, etc. Sur Excel, on peut pas ajouter des styles d'ombre ou des reflets sur les images. On peut pas personnaliser les styles et les dispositions du tableau croisé dynamique, etc., etc. PowerPoint, un petit peu la même chose. Donc, c'est pas des trucs dont on sert tous les jours, mais ça peut être des trucs qui servent tout de même. Et au final, pour accéder aux fonctions complètes, il faut avoir un abonnement, par exemple Office 365, qui coûte 7 € par mois pour un abonnement personnel. Et évidemment, l'abonnement que Microsoft veut que vous preniez, c'est l'abonnement famille qui vous permet d'utiliser 5 ordinateurs, 5 tablettes et 5 téléphones pour 10 € par mois. Jeff, t'es convaincu, tu vas passer à Microsoft Office pour tous tes documents de travail? Enfin, en même temps, j'imagine qu'il y a des gens qui travaillent sous Microsoft Office dans ton quotidien, non?
Oui, j'ai jamais quitté Microsoft Office, et donc quand on est passé, nous, à Google Apps, donc on a fait la transition Exchange vers Google Apps il y a maintenant à peu près 3 ans. J'ai continué à utiliser Outlook parce que j'y suis habitué, et donc tu regardes là sur mon ordinateur, j'ai Outlook, j'ai Office, donc PowerPoint, Word et Excel en train de tourner. Donc je pense que, comme l'expliquait Cédric, c'est vraiment une approche pour une fois intelligente de Microsoft de reconnaître qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'argent à faire sur la partie mobile, mais de toute façon, à partir du moment où tu offres suffisamment de fonctionnalités sur ta plateforme mobile, ça va te conserver ta plateforme desktop, et c'est là où il y a la guerre, parce qu'aujourd'hui, je dirais qu'on a la moitié de ce que l'on reçoit des entrepreneurs qui vient directement de Google Apps, donc leur spreadsheet, leur plateforme de PowerPoint et leur plateforme de documents. Et donc, le risque pour Microsoft, c'est vraiment de perdre tout ce revenu et tout ce footprint. Et,
oui.
Aujourd'hui, est en train
de... c'est amusant parce que Microsoft,
quand tu voyages, c'est quand même un iPad
dont pouvoir faire quelques annotations, ils vont mourir, pas très mal.
Pardon, vous parliez tous les deux en même temps en fait. Jeff finit et puis on vient vers Cédric.
Et donc, on n'a pas arrêté d'utiliser les outils Microsoft, et je pense que c'est une approche smart qu'ils ont eue de dire, quasiment tout dont vous avez besoin est gratuit. Bon, il se trouve que si vous avez besoin de quelques petites fonctionnalités un peu fines, il faudra payer, mais globalement, ça a du sens.
Oui, d'accord. Cédric, tu voulais dire un truc ?
Non, moi, j'ai toujours une sorte de tendresse pour Microsoft, parce que c'est quand même des gens qui vont très bien dans l'ensemble, mais dont on dit qu'ils sont mourants depuis très longtemps. mais c'est vrai, tu vois, tous ces gens qui disaient, Steve Ballmer a échoué, oui, il a juste multiplié le revenu de l'entreprise par 8 pendant sa présence au poste de CEO.
Ouais,
Microsoft là très récemment cette semaine je crois vient de redépasser ExxonMobil Exxon en tant que deuxième capitalisation boursière de la bourse de New York. Enfin bref, c'est des gens qui vont très très mal, mais ça se voit vraiment pas du tout.
Ouais, non, c'est sûr. Et puis là, donc ils sont effectivement deuxième en capitalisation boursière derrière Apple, et ils ont dépassé Exxon. Donc oui, pour des gens qui vont mal, c'est plutôt correct comme situation. Et ils ont aussi fait d'autres trucs un petit peu surprenants. Ils ont passer en open source, donc en logiciel ouvert, pas libre mais ouvert, leur framework .NET, qui est un framework qu'ils utilisent, un outil de programmation pour schématiser, qui est extrêmement important pour eux, et qu'ils vont adapter à Linux, sous Mac, sous Android et sous iOS. Donc là aussi, on a un revirement complet de stratégie qui est... on pourrait se dire avec le doute ambiant que c'est un peu tard, mais en fait, à mon sens, c'est pas vraiment tard. C'est le peut-être le dernier moment, mais ça reste encore complètement valable comme stratégie. Et il n'est pas impossible que ça leur permette effectivement de conserver, parce qu'ils ne l'ont pas perdu, mais de conserver leur première place en entreprise pour tous ces outils.
Ouais, je me souviens, il y a une dizaine d'années, j'avais croisé le garçon qui, chez Microsoft, était responsable des relations avec le monde open source. T'imagines comment il se sentait seul à l'époque. Je sais pas, il devait avoir un petit bureau au fond d'un couloir, mais tu vois, ouais, après...
personne allait voir.
Genre, personne lui parlait, etc. C'était quand même quasiment à l'époque.
Il était pas dans les bureaux, d'ailleurs. Il n'avait pas le droit d'avoir sa carte Microsoft. Il pouvait pas manger à la cantine.
En fait. Non, non. C'est ça. Son badge marchait pas au parking. C'est enfin, ça, sa vie était un enfer. Mais par contre, il avait des t-shirts avec des pingouins et tout. Hein. Mais et là, forcément, aujourd'hui, j'espère que c'est le même ou au moins qu'il soit là pour récolter les fruits de son travail, parce que
oui,
ça a dû être la route a été droite, mais la pente a été forte.
C'est sûr. Et effectivement, là où on peut voir les bénéfices de cette ouverture, ils donnent également Visual Studio, qui est leur environnement de développement, gratuitement, c'est de s'insérer dans tous les écosystèmes et du coup de ramener plus de monde vers Microsoft. Le grand absent...
Oui, enfin, pour juste quand même, si je peux mentionner quelque chose, c'est lorsque Satya Nadella a été nommé CEO, la stock de Microsoft était à 36. Ils ont dépassé les 48, soit 50% de plus, quasiment 50% de plus, la semaine dernière. Donc ça veut dire qu'en très peu de temps, il a quand même boosté la stock avec ses différentes actions de façon l'action de façon assez impressionnante.
Oui, non, c'est sûr.
Comme diraient les Américains, he must be doing something, right?
Oui.
D'autant que c'était quand même la seule complainte des gens depuis longtemps, c'était de dire ouais bon d'accord ils font des trucs bien mais le stock, l'action est un peu plate quoi. Et
là tout à coup c'est pas plate. Imagine s'il y a deux ans on t'avait dit ouais la bonne affaire à faire c'est d'acheter du Microsoft, t'aurais dit ouais.
Oula, là t'es redescendu, le volume est redescendu, je sais pas pourquoi.
Je vais demander à Skype d'arrêter de régler le volume tout seul.
D'accord, c'est gentil.
Ah alors est-ce que là c'est mieux? Vous voulez que je fasse plus fort, moins fort?
On va voir ce qui se passe.
Touche à rien.
Ok.
C'est bon, parce que t'as fait des blagues à propos de l'open source et le codec s'est vengé.
Ah mais c'est vrai que Skype appartient à Microsoft maintenant, la voilà la réponse.
Ah mais oui, c'est pour ça. Et donc, effectivement, on a toutes ces informations un peu étranges qui viennent de Microsoft, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une sorte de réveil du géant, une nouvelle énergie. On l'a senti frémir il y a quelque temps avec l'arrivée de Satya Nadella. Là, elle se confirme très clairement. Enfin, c'est plus qu'un réveil, c'est une sorte de séisme. Et on verra ce que ça donne. Mais a priori, les marchés et les analystes et les journalistes sont plutôt satisfaits. Donc, bon, a priori, c'est plutôt une bonne chose de la part de Satya Nadella. L'autre chose...
Il était
chose
à Paris, cette semaine, Satya Nadella.
Il était à Paris pour visiter ou pour dire bonjour à des gens?
Non, tu penses... Oui, il était chez Microsoft. Il y avait... en fait, il venait de parler, entre autres, de leur écosystème avec les startups. Je t'en aurais bien dit plus si j'avais été invité. Je te raconte pas comment ça pique, ça. non, parce que, tout simplement, ils ont dit... Apparemment, les Américains ont dit non, on n'invite pas les télés. Et les petits amis de Microsoft ont dit, bah oui, mais on peut inviter Cédric, il viendra sans caméra, enfin, juste dire bonjour, quoi. Et non.
Et ils ont dit
ah,
non.
Très bien. Donc, j'ai découvert l'existence de cet événement sur Facebook, donc je me suis énervé un petit peu. Voilà.
Écoute, on te laissera régler ça. C'est pour ça que t'es parti au Japon. T'as dit, si c'est comme ça,
exactement,
je m'en vais.
Si c'est comme ça, je me casse, voilà.
Ok, très bien.
Tu veux que je poste sur Twitter Don't fuck with Cédric? Ils vont prendre peur.
Non, mais je pense pas. Mais même si ça reste un axiome général, je vais mettre ça comme profil directement sur Twitter.
Voilà, ça sera plus simple.
C'est comme Don't mess with
Twitter directement. une autre grosse société qui a fait un truc un petit peu différent d'habitude, qui n'est pas aussi radical non plus que ce qu'a initié Satya Nadella, c'est Facebook qui a lancé tout un site pour expliquer aux gens comment gérer leurs informations, comment sont partagées leurs informations, ce qu'ils vont voir des gens qu'ils vont suivre, comment gérer les choses qu'ils vont voir des gens qu'ils vont suivre, etc., etc. Tout un site super bien fait avec des petites animations, plein de petites pages qui vous expliquent ça de manière très simple. Sauf que, alors bon, avant de dire ce que j'en ai pensé moi. déjà, c'est assez surprenant de voir Facebook qui se soucie à ce point de notre vie privée. On n'a pas vraiment l'habitude de ça avec cette société. Encore que, depuis l'affaire, les affaires Snowden, ils ont bien compris que la vie privée, les informations privées étaient un sujet délicat. Et donc, ils essayent de s'en soucier un petit peu plus. Mais là, qu'ils mettent autant d'efforts là-dedans, qu'est-ce que ça vous inspire à vous deux, avant que moi je dise ce que ça m'a inspiré à moi?
Je laisse le voisin de Facebook parler.
D'accord.
Bah non, vas-y, parce qu'en fait, j'avais même pas fait attention. Parce qu'en fait, tout ce qui est changement de termes,
c'est, pas vu.
Les vagues. Non, mais attends, je sais très bien que mon point de vue sur tout ce qui est privacy, c'est que c'est toujours des choses qui vont exciter les gens pour quelques jours ou semaines, et puis après tous ces changements vont être acceptés comme étant le standard. Et donc au fur et à mesure, on est complètement confortable de partager un certain nombre de données, parce que in fine on en retire un certain nombre d'avantages. Donc dès que tu parles de ah, on a changé les terms of reference et voilà les machins de privacy, j'y fais même pas attention.
Bah là, disons que c'est même pas. C'est une initiative de Facebook qui vise à expliquer à tous ses utilisateurs comment Facebook fonctionne, pour clarifier les choses, ce qui est pas tout à fait. Bon, il y a aussi des changements qui ont été proposés effectivement à leurs conditions d'utilisation, mais il y a quand même une intention de mieux expliquer les choses. Cédric?
Mais c'est une constante, c'est bien le moins de ce qu'on attendrait d'eux, et je pense que ça arrive à un moment où quand on arrive à un moment, je veux pas me jeter des fleurs, mais quand on arrive à un moment où moi je ne suis pas certain de ce que je peux faire sans que ça se voit ou pas et par qui, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple tout à fait quotidien. Vous pouvez me suivre sur Facebook, vous ne verrez jamais de photos de mes deux enfants.
Parce que tu pars du principe que de toute façon, tu ne partages pas les choses, parce que tu sais jamais si ça sera public ou pas, ou si ça le deviendra.
Non, mais c'est pas ça. Il se trouve que j'ai plein de gens sur Facebook qui me suivent que je connais pas. Donc voilà, il y a des limites à ce que je partage. Mon épouse, en revanche, mais qui a beaucoup moins d'amis sur Facebook, mais dont les amis de Facebook sont des vrais amis. Elle met des photos d'Oscar et Daphné, très bien. Et il m'arrive parfois de me demander, mais attends, si je like cette photo,
oui,
que va-t-il se passer?
Donc, si, mais c'est la tragédie. Tu ne peux pas aimer tes enfants sur Facebook.
Non, mais je les aime en vrai, ça suffit amplement.
Mais est-ce que ça suffit vraiment, Cédric? Est-ce que ça veut dire que... Bon, bref.
Non, et puis, c'est pas ça. Et il y a toujours cette histoire de l'évolution des conditions de privacy chez Facebook, où demain, par exemple, je sais pas, ils peuvent dire, tiens, en fait, tout ce que vous avez liké va apparaître sur votre timeline. Mmh. Ah bon? Ouais. Ah non.
C'est marrant.
Ou alors, avec exemple, on va dire, vous avez liké quelque chose qui était partagé avec juste les amis de la personne qui l'a partagé. Si vous le likez, ça va le partager, mais uniquement avec vos amis. J'en sais rien, mais voilà.
Ça me rassure, parce que c'est pas que
l'email est là. Maintenant, je suis d'accord avec Jeff sur le côté. Il y a un deal, c'est-à-dire que tu donnes à tous ces services la capacité de faire ce qu'ils ont besoin de faire. Moi, je me souviens, souviens-toi des espèces de micro scandales autour de Dropbox qui disaient mais vous nous donnez la capacité de sauvegarder, afficher, recopier, stocker, etc. Bah oui, évidemment, de faire exactement ce que tu leur demandes. C'est pas sûr. Pour ça que ton compte et Dropbox du coup avait fait un truc en disant non, your stuff is your stuff, ce qui vous appartient vous appartient, on vous demande juste de nous libérer les droits qui nous permettent d'assurer le service. Alors là, les gens s'excitent sur Facebook en disant attendez, il n'est plus explicitement écrit que en gros your stuff is your stuff. Est-ce que ça veut dire que ce que vous mettez sur Facebook appartient à Facebook? Oui, non, en tout cas vous leur laissez une licence illimitée pour le stocker, le recopier, etc., etc., tout simplement parce que c'est comme ça que fonctionne le service, et qu'en plus je vous rappelle que c'est un service gratuit. Je sais pas ce que c'est, il y a combien d'employés chez Facebook? Ils doivent être quoi, 10 000 maintenant?
Je sais pas, mais beaucoup.
Oh, c'est plusieurs, oui, c'est plus de quelques milliers.
C'est quelques milliers, c'est même pas 10 000, je suis pas sûr, hein. Enfin bon, peu importe, mais voilà.
Je sais pas.
Quand t'es 10 000 et que t'as 1,4 milliard d'utilisateurs, tu fais le ratio d'utilisateurs par employé, ils sont, pour le support, ils peuvent pas répondre au téléphone tous en même temps, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut faire des choses simples, mais c'est des choses simples pour eux. Et puis en plus, il y a quand même des aspects business là-dedans, c'est-à-dire que par exemple, L'empressement de Facebook à te localiser quand t'es sur ton appli mobile, qui est parfois, tu vois qu'il démarre la localisation, tu dis, mais chérie, je suis pas en train de poster quoi que ce soit, ça n'a aucun intérêt. Il faut savoir, par exemple, que le revenu, le CPM, le coût au mille d'une pub géolocalisée est 6 fois supérieur à celui d'une pub qui est pas géolocalisée. Donc, il y a quand même des aspects de business qui sont évidents derrière ça. Et je peux les comprendre. Et ça fait partie aussi de la pertinence de ce que Facebook va te présenter comme pub. Donc, voilà. Je comprends le deal et je l'accepte implicitement.
Ouais, c'est sûr que enfin bon, ce que je trouve amusant dans ce que vous racontez tous les deux et dans ce que tu dis Cédric, c'est que même moi, effectivement, je suis jamais sûr de comprendre exactement ce qui se passe avec mes informations ou avec les informations des autres qui passent par mon compte et qui machin sur Facebook. Donc qui va comprendre ça si nous qui sommes vraiment versés dans ce domaine ne comprenons pas. Et je sais pas si vous avez été regarder leurs Privacy Basics, qui sont leur série de petites animations qui sont censées vous expliquer comment ça fonctionne. Il y en a des pages et des pages et des pages. Et oui, c'est très simple. Chacun, si on en prend un individuel, ça explique très simplement comment les informations sont transférées et utilisées. Mais le problème, c'est qu'il y en a tellement, chacun oui. prenant, je sais pas, 2 minutes à faire, mais personne ne va prendre le temps de faire tout ça. Personne.
Ah, on te donne donc, un contrôle extrêmement fin de ce que tu peux faire avec tes données, de comment tu partages avec qui, etc.
Enfin, c'est mais même pas oui. qu'on te donne le contrôle. On t'informe de la manière dont c'est fait. Mais c'est l'un des reproches, d'ailleurs, qu'on a fait à Facebook encore aujourd'hui avec ces informations qui désormais sont fines. On dit, on peut pas vraiment contrôler si on veut pas avoir les informations qui partent ici ou là ou dans la troisième direction. Et ce qu'on comprend, bien sûr, puisque Facebook veut pouvoir les utiliser pour monétiser avec les pubs et tout ça. Donc,
Non, mais ça, c'est vrai que pour le contrôler finement, il faut avoir envie de passer sous le capot, quoi. C'est pas...
Oui, c'est sûr.
C'est le problème. C'est, comme le disait Cédric, avec la granularité de l'information et des contrôles que tu as, même si tu regardes l'ensemble de tout ce qui est disponible, parce qu'en fait, je voulais bloquer les gens qui ne sont pas des amis de se connecter à moi sur Messenger. Et en gros, j'étais pas foutu de trouver l'option et j'ai dû demander à David Marcus, donc le patron de l'activité Messenger chez Facebook, de jouer les supports et de me dire laquelle c'était. Bon. C'est pas forcément facile, c'est pas forcément donné à tout le monde. Ah oui, et donc,
David Marcus, c'est un super support technique. Hein. Accessoirement, c'est aussi
qu'il connaît vachement bien son produit.
C'est pas ça déjà ça, mais puis c'est un commercial d'enfer. David Marcus, oui, c'est ce que disait Jeff, c'est l'ancien patron de PayPal qui est maintenant patron de Messenger. Et moi, j'ai eu le droit à un message de David Marcus il y a quelques semaines disant Cédric, je vois que tu n'as pas installé Messenger. Donc, si tu veux, la granularité du travail commercial du patron de Messenger, elle va très, très loin.
Ah oui, effectivement. Oui. Bon, il y a un autre... Ah, pardon, fini, Jeff.
Mais donc, le truc, c'est... je pense que l'option que tu dois prendre, c'est en gros, si, et c'est ce que j'ai expliqué à mes enfants, tout ce que vous mettez sur ces réseaux sociaux sont soit des informations qui sont publiques au moment où vous les émettez, ou deviendront publiques. Donc, si ouais. vous voulez avoir quelque chose qui est préservé, bah en gros, c'est du text message et encore. Autrement, assumer qu'à un moment ou un autre, ça va devenir ouais. public parce que c'est comme ça que l'évolution des plateformes se passe.
C'est ce qu'on dit souvent, effectivement. À partir du moment où c'est sur les réseaux sociaux, sur Internet, il faut qu'on soit à l'aise. Si jamais ça devient public un jour, eh ben, il faut que ça nous convienne. Si quelque chose qu'on ne veut jamais rendre public, ben, il faut le mettre nulle part. Même dans les endroits dont on pense que ça sera
privé. Il faut juste que ça ne sortira pas d'Internet.
Voilà.
mais tu as raison, c'est genre, imagine une photo de tes enfants que ta femme publie et que toi tu partages derrière. Je veux dire, ça devient public, même si l'intention initiale c'était privé. Alors que là, c'est quoi? C'est une photo de toi et l'homeur. D'ailleurs, le dit l'homeur te fait la bise, et à toi Patrick aussi. D'accord. Il vient de m'envoyer un email. Okay. Et donc, c'est l'approche. C'est tout ce que tu mets est soit public, soit elle deviendra. Et comme ça, à partir du moment où tu as accepté ça, c'est bon.
C'est ça, effectivement, le pire, c'est que même nous, on n'a pas forcément le contrôle sur nos informations parce que, d'une part, si nous, on met quelque chose en pensant bah ça va être limité à nos amis et que quelqu'un d'autre appuie sur like ou le repartage, bah ça va partir plus loin. Et d'autre part, si quelqu'un d'autre va mettre une photo de nous, eh ben, on n'a plus le contrôle dessus non plus. Donc, bref, c'est un foutoir.
C'est pas mal parce que ça a quand même laissé la place à d'autres. Finalement, tu vois, on l'a vu avec Halo récemment, même si je pense que c'est un peu un pétard mouillé, mais on l'avait même vu avant avec Path. Moi, par contre, tu vois, j'ai aucun problème à partager des photos de mes enfants sur Path. Parce que là, je sais que c'est
prévu pour ça, oui.
Qui est prévu pour ça parce que là, tu sais que c'est absolument circonscrit à la liste des gens qui sont tes amis, dont on a dit dès le début, n'acceptez comme amis que des gens qui sont vos amis dans la vraie vie.
Oui, mais même là, j'imagine que tu mettrais pas des choses qui seraient dommageables si elles devenaient publiques. C'est des trucs que tu veux partager avec tes amis, mais pas
les trucs. Les trucs que je garde pour moi, je les mets nulle part.
Oui, voilà, non, mais c'est ça, exactement.
Et Google Plus l'avait fait aussi simplement, tu vois, en faisant les cercles, en te forçant à classer tous tes contacts par cercle dès le début, ça te donnait une solution assez simple et assez fine pour gérer ce que tu publiais et qui pouvait le voir.
Eh bien, toutes ces merveilles de partage d'informations risquent d'arriver à un moment dans notre vie professionnelle aussi par l'intermédiaire de Facebook, puisque Facebook serait en train de développer un module qui s'appelle Facebook at Work, qui permettrait de séparer les profils les profils privés, donc de la vie de tous les jours, et un autre profil professionnel qui permettrait donc d'utiliser Facebook pour le boulot avec le partage d'informations, de documents, etc., etc. J'ai vu certains qui comparaient ça à LinkedIn, mais ils n'ont pas bien compris en fait. LinkedIn, c'est le réseau type Facebook pour les relations professionnelles. Là, si j'ai bien compris ce dont il s'agit pour Facebook at Work, c'est le fait d'avoir un réseau, l'utilisation du réseau social pour votre entreprise, pour votre boulot. C'est-à-dire que vous auriez comme amis, je sais pas, les gens du marketing, les développeurs, les gens du licensing et les gens des RP. Et vous pouvez comme ça partager les informations. Ce qui, sur le papier, à mon sens, est relativement séduisant parce que c'est vrai que ça fluidifie énormément les communications. Par contre, je ne sais pas qui va accepter qu'on commence à mettre des informations professionnelles qui sont souvent sensibles sur Facebook finalement, parce que ça reste Facebook, c'est juste une partie compartimentée de Facebook. Vous seriez séduit par un truc comme ça ou pas vraiment ?
Le problème, c'est que là, en fait, ils font que préempter un espace qui existe déjà. C'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui travaillent, entre guillemets, sur Facebook. Par exemple, parce que c'est assez pratique quand tu travailles avec des gens qui ont tous un mobile dans la poche, de faire, par exemple, un petit groupe de discussion dans Messenger pour se tenir au courant quand tu es sur un projet, etc. Il y a des startups qui se sont un peu fondées là-dessus. Comment ça s'appelle, Jeff, sera Slack, qui est une espèce d'outil collaboratif super simple, qui en plus est vachement intelligent parce que lui, il se connecte à toutes les autres choses que tu as déjà, que ce soit tes Google Apps, ton MailChimp, etc. Tous des outils de développement, bref. Donc, il y a déjà des choses comme ça dans les entreprises. D'autres l'avaient fait, Salesforce l'avait fait avec Chatter, qui est vraiment une sorte de copier-coller d'un Facebook simplifié, mais appliqué au monde de l'entreprise pour travailler soit par groupe de travail, soit par sujet, un peu comme ce que fait Facebook aujourd'hui. Donc en fait, Facebook, ils ont juste observé qu'il y a des gens qui les utilisaient pour travailler et que ce serait finalement une offre de service pas mal à proposer aux entreprises. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec Google Docs au début. Moi, j'ai toujours pas Google Docs au bureau, pourtant, j'en utilise que ça. Donc c'est assez logique. Après,
ouais, donc ça serait pour pas forcément pour aller conquérir de nouveaux marchés, encore que rien n'est jamais impossible. Mais surtout parce qu'il y a des gens qui l'utilisent déjà comme ça, et le fait de séparer les deux profils pourrait faciliter cette utilisation. Oui, j'y avais pas pensé. C'est pas bête.
Oui, puis les entreprises pourraient.
L'idée d'utiliser Messenger dans un contexte à la fois business et personnel, ça a du sens pour moi. Utiliser Facebook en tant que portail, c'est moins le cas. À mon avis, tout ça, c'est une histoire de rétention et d'augmenter en fait le temps que tu vas passer sur leurs apps, donc augmenter l'engagement et de fait la monétisation. Par contre, essayer d'avoir une offre concurrentielle contre un Slack ou les différents portails d'entreprise, ça me paraît quand même un peu poussé là.
Oui, là ça va loin. Ouais. Parce que ça resterait pour des usages simples, mais par exemple si tu es une entreprise et qu'on te dit, vous savez, vous allez pouvoir faire votre page interne, vos groupes de discussion interne, etc. Ça va vous coûter X par mois, c'est-à-dire ça n'a même pas besoin d'être cher. mais en échange, par exemple, on ne vous mettra pas de pub. Bon, bah, ça c'est une offre assez simple et assez lisible pour tout le monde.
Peut-être. Mais en tout cas, c'est encore une rumeur. Hein. C'est pas un projet encore annoncé, donc on verra ce que ça donne. Écoutez, on arrive à mi-chemin de l'émission et je vais donc faire ma chose favorite de toutes les émissions du monde, c'est-à-dire remercier mes patrons, mes nouveaux patrons qui depuis maintenant, presque 3 semaines, sont mes seuls patrons. Vous qui contribuez au Patreon et du Rendez-vous Tech, vous qui êtes mes patriotes. Et je vais donc remercier tout de suite Lucas F. Eyal, Jean-Michel Orodinski, Erwan Ango, Thierry Dumais, Colunia, Christophe, Tête de Bebe et Michael Rizzo. Donc merci à vous tous et tous les autres qui contribuez au Patreon du Rendez-vous Tech sur patreon.com/rdvtech. Je suis effectivement podcasteur professionnel depuis 3 semaines. Ça se passe très très bien. J'ai été, oui, c'est un mot qui fait bizarre, hein, n'est-ce pas, Cédric? Podcasteur professionnel, on se demande si ça existe vraiment. C'est un peu une chimère. Mais donc j'ai depuis 3 semaines ce titre extrêmement privilégié et j'ai eu 3 semaines un petit peu folles. On va parler un tout petit peu dans une minute de ce que j'ai fait à la BlizzCon, qui est une convention de jeux vidéo. Et j'ai donc eu beaucoup de choses à faire. J'ai eu 3 semaines assez agitées. Maintenant, ça commence un petit peu à se calmer. Et en décembre, je devrais pouvoir commencer à rentrer dans un rythme de croisière normal. Mais dans tous les cas, ça m'a fait tellement plaisir de pouvoir me lancer là-dedans, grâce à vous tous qui me soutenez, que c'est difficile à exprimer à quel point je suis reconnaissant. Surtout que, en fait, il y a quand on a atteint le deuxième palier dont j'avais parlé sur Patreon, et ben en fait les gens ne se sont pas arrêtés. Il y a d'autres personnes, des nouveaux, qui viennent contribuer encore à l'émission parce qu'ils pensent que cette émission vaut quelque chose, cette émission a une valeur, leur apporte de l'information, de l'amusement, du bon temps, le résumé de l'information qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher tous les jours dans les centaines de blogs et de news qui sont publiés, et ils se disent ben je l'écoute depuis hyper longtemps, c'est un gros boulot, il le fait, je vais lui lâcher 1, 2, 3 dollars par épisode. Et donc les gens continuent à le faire. Donc je suis hyper reconnaissant, hyper chanceux, et je vous en remercie encore une fois pour la 1000e fois. Et si, comme tous ces gens-là, vous voulez devenir patriote du Rendez-vous Tech, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. Les liens sont partout dans les notes de l'émission, sur le site, etc., etc. Donc merci.
C'est vraiment
tous.
C'est vraiment le plus sauvage des capitalismes, en fait, ton histoire, parce que ouais. Tu disais mes nouveaux employeurs, c'est pire que tout parce que personne peut te virer. Par contre, on peut arrêter de te payer.
Ah bah oui, c'est ça. Exactement. C'est le jour où vous êtes plus content, vous pouvez arrêter direct. Donc
paiement à la performance, voilà. Modèle capitaliste. Parfait.
Oui. Exactement. Oui, c'est le plus pur capitalisme qui soit.
Donc Cédric, tu te rends compte? De la responsabilité que tu as sur tes épaules, comme quoi ouais, tu sois vraiment bon aujourd'hui.
Mais je fais partie de ces employeurs, hein, à raison d'un dollar par émission, mais quand même.
Donc il me regarde avec les gros yeux et j'ai intérêt à être bon aussi. On va continuer à parler d'informations puisque c'est ce que vous demandez tous, mes chers patrons. Et on va passer aux news et rumeurs avec une news dont je voulais parler à la fin de notre partie news et rumeurs. Mais Jeff m'a dit, oh, attends, on peut pas en parler avant parce que je vais devoir partir comme d'habitude en cours de route. Mais c'est une information qui m'intéresse. Et justement, on va parler de la BlizzCon, la convention de la société Blizzard qui, jusqu'à il y a 3 semaines, était mon employeur, mais je suis quand même allé à leur convention juste après mon départ de la société, et j'ai bien fait parce qu'il y a eu. Bah écoute, c'est moi qui suis parti, donc en même temps.
Juste qu'on précise, c'est que tout le temps où Patrick a travaillé pour Blizzard, on pouvait pas parler de la BlizzCon ou de World of Warcraft, et donc on n'a jamais parlé quasiment de WoW sur LRDV, même si j'ai été un joueur, un raider pendant 5 ans. Bon, ça fait maintenant plus de 3 ans que j'ai arrêté, et donc ça m'intéressait de savoir en gros ce qui s'était raconté. Voilà.
Eh ben écoutez, chers tous, il s'est passé des choses hyper intéressantes pour les gens qui sont des joueurs, et notamment l'annonce d'un nouveau jeu de Blizzard, d'une nouvelle licence qui s'appelle Overwatch, qui est un jeu de tir, un FPS, et qui est la première nouvelle licence qu'a annoncé Blizzard depuis 17 ans. Donc évidemment, Blizzard, qui est l'un des plus grands développeurs de jeux vidéo du monde, quand ils annoncent quelque chose comme ça, ça fait du bruit. C'est quelque chose d'important et je suis content de pouvoir en parler enfin dans le Rendez-vous Tech. Et c'était un événement, bah, comme toujours, assez exceptionnel, un événement communautaire d'une qualité avec une ambiance assez rare, parce que c'est un endroit où il y a 15, 20, 25 000 personnes qui se retrouvent en deux jours et qui sont tous des joueurs assidus des jeux Blizzard. Donc on se retrouve entouré de gens qui sont comme nous, quoi, des vrais gamers, des gens qui vont comprendre quand on fait des références bizarres à des choses dont les gens normaux, entre guillemets, n'ont jamais entendu parler. Et c'est toujours un plaisir, moi ça fait la, je sais plus, 7e ou 8e BlizzCon que je fais, c'est toujours le même plaisir que de se retrouver là-bas, surtout quand il y a des annonces de ce calibre-là, parce que Blizzard, leur spécialité, c'est que ils développent des jeux dans des catégories que les développeurs de chez eux apprécient, mais qu'ils amènent à un public beaucoup plus large en simplifiant les principes de gameplay, mais en faisant ressortir le fun. Donc voilà, c'était vraiment un événement pour moi à ne pas rater. Bon, Jeff, tu n'y étais pas malheureusement, mais c'était une belle BlizzCon, une très belle édition, quoi. Et en plus, on fêtait les 10 ans de World of Warcraft. 10 ans, rendez-vous compte, 10 ans de ce jeu déjà. Et pour moi, ça avait une signification particulière parce que le premier podcast que j'ai fait de ma vie, c'était Azeroth.fr, qui était dédié au jeu World of Warcraft. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Jeff, d'ailleurs.
Exactement. Et combien de millions, de dizaines de millions d'heures ont été perdues et gâchées à cause de World of Warcraft. Mais en fait,
De milliards,
oui. Hubert Thiébaud de Curse, donc ouais. Il y était aussi. Et en fait, je suis super excité.
Ah, on s'est même pas vu, c'est dommage.
Je suis super excité par l'annonce de ce FPS. Et je pense que bon, je vais pas revenir à WoW, mais je le testerai parce que franchement, ça a l'air super sympa.
Eh ben, écoute, il y aura la bêta en 2015. J'espère qu'on pourra avoir des accès. Et entre parenthèses, pour World of Warcraft, moi je suis en train de jouer à la toute dernière extension qui est sortie il y a quelques jours, une semaine à peine, Warlords of Draenor, et qui est franchement un très très bon cru, hein. Je dis pas ça parce que j'étais un employé de la société, mais franchement, j'apprécie beaucoup beaucoup le jeu. Donc, et je pense que les avis sont assez unanimes sur la chose.
Et c'est quand?
Pardon?
C'est pour quand 2015. Overwatch?
2015.
Alors Overwatch, la bêta en 2015.
D'accord. Et ce sera PC et console?
Alors, ils ont annoncé PC. C'était suffisamment simple. A priori, je pense que ça serait pas étonnant que ça sorte sur console aussi, quoi.
Bah, vu que les consoles sont des PC maintenant, forcément.
C'est pas faux.
Ça aide pas mal.
Et dernière question, Wout, tu joues quoi, ton mage ou autre chose?
Je joue mon druide. Pour la première fois, je joue mon druide en premier, mais je jouerai mon mage après. Tu sais, j'ai toujours 4 personnages au niveau maximum de l'extension d'avant. Donc oui, je monterai tous les personnages.
Ouais, c'est ça qui est lourd. C'est mon Hunter, il est toujours à 92 ou 93. Et...
Non, 92.
Était,
non,
c'était quoi est...
c'était... Non, 80, était... 82 peut-être, quelque chose comme ça.
C'était, non, mais tu c'était sais quoi que... la dernière C'était quoi la dernière C'est 90 le maximum?
Oui, c'était 90, ouais.
Ok, donc j'en avais monté un 90, ok.
Eh ben, ah oui, d'accord, parce qu'en fait, tu peux aussi, avec cette extension, avoir un boost de personnage au niveau 90 quand tu achètes l'extension. Donc même si tu n'es pas, si tu as arrêté il y a longtemps et que tu n'es pas niveau 90, eh ben, tu n'as pas à tout refaire jusqu'au niveau max. Tu peux commencer directement au même niveau que tout le monde qui commence l'extension. Donc okay. Ça, c'est pratique aussi. Mais bon, je pense qu'on a perdu quelques-uns de nos auditeurs qui ne s'intéressent pas tellement aux jeux vidéo, encore que c'est un gros événement de jeux vidéo, et le jeu vidéo étant le loisir numéro un au monde, c'est quand même important. Mais si vous voulez en savoir beaucoup plus sur tout ça, figurez-vous que j'ai lancé un nouveau podcast qui s'appelle, qui a un nom extrêmement, extrêmement original, qui s'appelle Le Rendez-vous Jeu. Et où on parle de jeux vidéo. Et alors le premier épisode, c'était un état des lieux de l'industrie complète. Et le deuxième épisode, justement, on l'a fait en direct de la BlizzCon et avec des spécialistes des jeux Blizzard. On a passé en revue toutes les annonces et on a analysé tout ça. Donc vous pouvez aller toujours sur frenchspin.fr et écouter le rendez-vous jeu. Vous aurez tous les détails là-dessus. Donc si vous en voulez plus, c'est ce qu'il faut faire. Le rendez-vous jeu. La Xbox One, toujours dans les jeux vidéo, serait en train de remonter un petit peu la pente avec 10 millions d'unités vendues. Ce qui est important à préciser, c'est que ce sont des unités vendues en sell-in, c'est-à-dire vendues au magasin, et pas en sell-through, c'est-à-dire vendues aux acheteurs eux-mêmes. La PlayStation 4 était à 13 millions, un peu plus de 13 millions
il y a quelques temps. Il n'est pas prévu qu'ils les reprennent en cas de mévente.
Non, bien sûr, mais ça laisse une petite marge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore 10 millions de joueurs qui ont une Xbox One leur salon. Alors que sur les chiffres qu'annonce Sony avec la PlayStation 4, dans ce combat de titan de consoles nouvelle génération, les 13 millions qu'ils ont annoncés, c'est du sell-through. Donc, les consoles sont dans les salons des joueurs. Mais bon, on chipote un petit peu, c'est une belle remontée parce que il faut dire qu'ils ont descendu le prix de la Xbox One aux États-Unis pour en vendre beaucoup et ils sont en train de remonter la pente. On verra ce que ça donne après la période de Noël qui est évidemment critique pour ce genre de choses. Autre information intéressante, Axel Springer, vous savez qui c'est ? Non,
oui.
Ce n'est pas un chanteur, c'est un éditeur allemand qui avait fait tout un foin de son départ de Google News en disant voilà, Google News nous vole du contenu, et ben puisque c'est comme ça, on ne veut plus qu'ils mettent les petits extraits de nos pages sur Google News, vous nous désindexez tout ça et on n'apparaîtra plus dans Google News. Eh bien, ce qui devait arriver est arrivé. Ils sont revenus la queue entre les jambes et ils ont dit bon, finalement, il se trouve qu'on a eu 80% de réduction de trafic. Donc, peut-être que ça serait pas mal qu'on soit réindexé dans Google News, en fait. Donc voilà, ce qu'on...
Ouais, c'est une redite de ce qui s'était passé avec News Corp il y a quelques temps, et puis des espèces de rodomontades et de jérémiades de mes confrères de la presse française il y a 2 ans, souvenez-vous. Parce que c'était un peu le championnat du monde de la mauvaise foi, c'est-à-dire que les gens disaient « Non mais quand même, c'est dégueulasse, regardez, Google nous vole du contenu ». Alors ce à quoi Google répondait en disant « Attendez, je comprends pas, on a mis en place des outils qui vous permettent de gérer extrêmement finement ce que vous voulez laisser passer chez nous. Vous pouvez évidemment demander à être totalement absent du moteur de recherche, vous pouvez être présent sur le moteur de recherche, mais pas sur Google News. Sur Google News, vous pouvez partager page par page, vous pouvez décider de ce que vous partagez. On vous laisse même indexer chez nous des pages payantes pour appeler les gens à s'abonner. Enfin, et accessoirement, c'est vrai qu'on vous renvoie pas mal de trafic. Donc voilà, et les gens disaient non, mais on veut... Alors Google dit, si vous n'êtes pas content, vous pouvez aussi vous retirer de ce que vous voulez. Non, oui, mais non, mais vous nous volez. Oui, non, mais vous pouvez partir. Non, mais en fait, on veut pas partir, mais on voudrait de l'argent.
j'aime bien le championnat du monde de la mauvaise foi. Oui, c'est sûr. Certains d'entre eux, effectivement.
Ils ont eu un petit chèque, etc. Et maintenant, la gestion du chèque est assez compliquée parce qu'évidemment, les gros vont passer avant les petits. Enfin, bref. Oui. Mais Google a réussi à calmer le jeu un peu comme ça et puis à dire, on va faire plein de trucs. Regardez, on va faire un institut culturel à Paris. Enfin, il se passe des trucs. Mais voilà, ça, le fond du problème, c'est un peu comme les fournisseurs d'accès face à Netflix. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, non, il faut nous payer. Oui. Non, mais attendez, mais je peux mettre mes serveurs chez vous comme ça vous coûtera 0 de bande passante. Non, mais il faut nous payer. Ouais. Donc voilà, c'est un peu de la
Jérémie. Avant que Jeff ne disparaisse, à moins que tu doives vraiment partir, tout de suite.
Non, c'est bon, j'ai encore quelques minutes. Je partirai dans 5-7 minutes.
Eh ben, je voulais avoir ton avis sur cette initiative de la French Tech avec 9 villes françaises qui ont été labellisées French Tech, ce qui veut dire que. En fait, on ne sait pas trop, quoi. C'est un label qui est censé, selon Axel Lemaire, valoriser l'ensemble des écosystèmes afin que les investisseurs internationaux voient la France comme une nation innovante, un acteur incontournable du numérique qui dispose d'un écosystème vibrant et dynamique. Alors, il y a Aix-Marseille, Bordeaux, Métropole Numérique, Digital Grenoble, Lille, Lyon, Nantes, Montpellier, Métropole Numérique, la French Tech Rennes, et French Tech Toulouse. Est-ce que toi... J'ai même pas eu besoin de finir ma question.
Vas-y, je t'en prie, pose la question et après je me roule par terre.
Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, en tant qu'investisseur qui est dans le cœur, justement, des investissements et de la tech au quotidien? Parce que ce qu'il y a, c'est qu'en France, on a des gens qui font de la tech intéressante. Mais ce genre d'initiative, effectivement, ça t'évoque quoi? À part ce rire graveleux.
Écoute, d'un côté, je pense que ça montre la volonté du gouvernement d'essayer d'aider les startups. Le problème, c'est que pour toute initiative de ce type, il y en a 10 autres qui sont pénalisantes en termes d'impôts, en termes de le truc qu'ils ont sorti là où si tu vas te faire racheter ta boîte, il faut que tu annonces ça à tes employés 30 jours avant, ce qui veut dire que tu as des risques de leak, de fuite d'informations absolument énorme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de créer des pôles technologiques? Je veux dire, pour l'investisseur de la vallée, de toute façon, le concept d'investir en France, c'est quelque chose auquel tu penses pas tous les jours, même genre, tu penses pas du tout. Pourquoi? Parce que t'es dans le cœur de la vallée, et donc, typiquement, tu t'attends à avoir des opportunités plutôt ici, et de temps en temps, en dehors de la vallée, ailleurs aux États-Unis. Si jamais tu considères une boîte européenne, tu vas penser à Londres, tu vas penser aux pays nordiques, tu vas penser à l'Allemagne. Donc, je pense pas que
Alors
soit...
justement, est-ce que l'idée de ce type d'initiative n'est pas de changer l'image de la France? Je me joue un peu l'avocat du diable, mais j'essaye de comprendre la logique, quoi.
Je pense que changer l'image de la France, ce sera faire en sorte de passer des lois qui sont beaucoup plus en faveur des entrepreneurs et des rachats de boîtes, puisque maintenant que Montebourg est parti au minimum, on n'a pas le mec qui va dire non aux avances des boîtes américaines par rapport aux boîtes françaises.
Entre parenthèses, on a entendu que ça avait laissé des traces assez sévères dans les discussions qu'ils ont aujourd'hui avec des investisseurs potentiels étrangers, même pas seulement Orange, mais dans l'ensemble de la tech. Mm-hmm. Cette histoire a vraiment refroidi les investisseurs.
De la part
du gouvernement. Hein, donc.
Bien sûr, quand on investit, tu vois, par exemple, la semaine dernière, il y a une de mes boîtes qui a été rachetée par Yahoo pour 640 millions de dollars. J'avais investi à 4 millions de dollars il y a 8 ans. C'était parce que j'avais l'espoir qu'à un moment ou un autre, la boîte se développerait et qu'il y aurait une offre de ce type qui nous permettrait de faire beaucoup d'argent. Si jamais tu avais un crétin dans l'administration Obama qui disait non, pas possible, Brad Roll, vous pouvez pas vous faire acheter par Yahoo, je peux te dire que tout l'enthousiasme qu'il y a aujourd'hui dans la vallée où tu as des centaines ou des milliers d'investisseurs qui essaient de financer les startups, ça se calmerait tout de suite. Donc, d'un côté, je pense que c'est
pour
positif.
Revenir sur ce...
Pour revenir à ta question, je pense que c'est positif d'essayer de mettre un certain nombre de pôles techniques sur un espèce de piédestal, de manière à ce que les gens aient conscience qu'il y a une technologie en dehors de Paris. Parce qu'aujourd'hui, si tu demandais à l'investisseur moyen qui ne connaît pas l'écosystème français où se trouvent les bastions des startups françaises, clairement, c'est sur Paris, quoi. Donc, c'est pas inintéressant, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que créer des écosystèmes, ça va prendre des dizaines d'années. Je veux dire, la Silicon Valley, ça s'est créé sur les 40 dernières années. Et malheureusement, étant donné les échéances politiques qui sont à 2 ou 4 ans, ils vont essayer de voir des résultats, en gros, qui pourront avoir un impact sur leur réélection, en quelque sorte, et ça va prendre beaucoup plus de temps que ça. Donc c'est pas négatif, mais il faut avoir les attentes qui sont calibrées avec le fait que créer tout écosystème et la grosse erreur que la plupart des politiques font, ces questions-là de la part des Français, des Anglais, des Allemands, c'est comment on recrée notre Silicon Valley, et ça ne pourra jamais se faire. Il faut trouver votre propre solution à cette espèce de comment on dit, pétri dish,
Oui, pétri dish de culture, bouillon de culture
qui amène donc les entrepreneurs à rencontrer les sources de financement, à rencontrer les mentors qui ont déjà fait, qui ont construit des boîtes, qui sont sortis de ces boîtes, qui ont fait des erreurs, qui sont capables de partager leur expérience pour faire en sorte que les jeunes pousses ne les répètent pas. Et petit à petit, ça permettra de développer un écosystème. C'est pour ça que aujourd'hui à Paris, tu commences à avoir de très belles boîtes qui ont levé des gros tours, qui ont fait de très belles sorties, et c'est les execs de ces boîtes-là deviennent à la fois des business angels et des mentors pour la nouvelle génération d'entrepreneurs. Donc c'est en train de se passer. Simplement, ça va prendre du temps.
Ouais. Bon, et effectivement, c'est pour ça que beaucoup de gens étaient, en dehors de la question de l'image, beaucoup de gens étaient un petit peu frustrés de la question de ce qui s'était passé avec Dailymotion, parce que justement, ils estimaient que c'était dommage pour l'écosystème, pour ce fameux écosystème d'entrepreneurs qui serait ensuite venu faire vivre l'écosystème. Les gens de Dailymotion seraient venus faire vivre l'écosystème, sans doute en France, parce que ils seraient revenus ensuite.
Oui, et puis je
suis plutôt sur la... Pardon, vas-y.
Non, je veux juste terminer sur. Enfin, comme je l'ai dit en public, je dis pas que le deal Dailymotion Yahoo qui était sur la table était un bon deal et que c'était forcément quelque chose qu'il fallait accepter tel quel. Ce que je dis, c'était que le pire qui a pu se faire pour l'écosystème français, c'est l'intervention de Montebourg et dire que les actionnaires de Dailymotion disent à Yahoo. Allez vous faire foutre, vous sous-valorisez Dailymotion en tant qu'asset, ça je l'accepte tout à fait. C'est la façon dont ça a été compris et communiqué par... qui est une catastrophe. Et maintenant, tu vois, Cédric Tournay et son équipe de management, ils étaient dans mes locaux à Palo Alto il y a encore quelques semaines, puisqu'ils ont déménagé dans Palo Alto. Je veux dire, c'est une boîte qui a une vision internationale, et effectivement, s'adosser à Yahoo, ça aurait été un énorme boost.
Hmm. Ouais. Tu voulais dire un truc, Cédric?
Oui, non, je suis sur l'attractivité de la France. Moi, je comprends pourquoi ils le font. Je pense que c'est de fait de l'encouragement et c'est permettre à des gens, région par région, d'avancer un peu sous la même bannière, par exemple, face à des investisseurs ou à des entreprises qui s'installent, pour dire qu'il n'y a pas que Paris dans la vie. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que Paris dans la vie. Mais pour dire, regardez, il y a chez nous, voilà, le début, ou en tout cas, du terreau. C'est-à-dire qu'on a les bonnes universités, les bons diplômés, les bonnes infrastructures. Parce qu'il y a quand même, des vraies forces françaises, hein. On remerciera jamais assez le TGV, parce que c'est des choses qui n'existent pas ailleurs ou pas à la même échelle.
Non, c'est sûr. Moi, je suis un peu sur la ligne.
Même sur la fiscalité, je suis un peu sur la ligne Xavier Niel là-dessus, quand il dit que la France est un paradis fiscal pour entrepreneurs. Alors évidemment, il y a un soupçon de provocation de sa part, mais il dit oui, regardez, sur les reventes d'entreprises, sur les plus-values, vous êtes beaucoup moins taxé qu'ailleurs si vous avez gardé votre boîte 8 ans, etc., etc. Mais je rejoins Jeff sur un truc. Le gros reproche qu'on peut faire aux institutions, c'est la lisibilité. C'est-à-dire que ça a tellement changé, et tellement changé vite, et tellement parfois changé sur des coups de tête. Je pense de fait que l'histoire de Montebourg, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que tout à coup, on vous dit, bon, les règles changent tout le temps, et puis en plus, au dernier moment, le ministre peut arriver et dire, ben non, moi, je veux 50%. Donc là, forcément, pour qui que ce soit, c'est pas vivable. Les entreprises, elles sont souvent prêtes à travailler dans des conditions fiscales plus intéressantes, moins intéressante, etc. Tant que ça reste lisible, 2% de taxes en plus, en moins, ça change pas grand chose. Mais par contre, si on vous dit, ah oui, ça peut changer tous les 6 mois, et à la fin, quelqu'un peut arriver et dire, en fait, c'est non. Ça, par contre, c'est pas vivable. Mais il faut reconnaître le boulot que fait Axel Lemaire là-dessus. Elle se démène, la petite.
Oui, et je pense que tout ça c'est positif, parce que globalement il faut supporter les entrepreneurs, parce que c'est là que se trouve la croissance, les embauches, etc. ça vient quand on voit ici en Californie, surtout dans la région de San Francisco, on est passé sous le seuil des moins de 5% de chômage, ce qui est quasiment le plein emploi, parce qu'en fait, après, tu vas avoir des gens qui vont quitter, qui vont reprendre leur boulot, etc. Le problème que l'on a, c'est que c'est pas toujours... On a vraiment une grosse séparation entre les jobs dans la tech qui payent très très bien et les jobs qui sont les jobs plutôt au SMIC ou l'équivalent américain du SMIC, où tu as du mal à faire vivre une famille, surtout dans un endroit qui est aussi cher que la vallée, puisque là, il est annoncé que Palo Alto, c'est l'endroit aux États-Unis où les loyers sont les plus chers. Super, note. Et donc, on se retrouve dans une situation où toutes ces boîtes vont créer énormément d'emplois et énormément de croissance. Et c'est un réel moteur. Donc, c'est clé pour le gouvernement de pousser ça. Le problème, c'est qu'il faut vraiment débrider. Il faut envoyer, il faut enlever toute la friction. Et le truc sur lequel, je veux pas me répéter, mais dire tant qu'il y aura pas une flexibilité de l'emploi de manière à ce que tu puisses virer quelqu'un aussi vite que tu l'embauches, je veux dire, les startups n'embaucheront pas. Et ça va contre les principes socialistes, ça va contre les principes d'ailleurs français, mais c'est la vérité. Je veux dire, la raison pour laquelle on a des boîtes qui sont capables d'embaucher une centaine de personnes en un an, c'est parce qu'on peut virer 100 personnes en une journée. Et quand on a cette flexibilité, on l'utilise. Et ça ne veut pas dire que les boîtes virent les gens, ça veut dire que les boîtes peuvent croître très très rapidement.
Il y a le revers de la médaille, effectivement. Je crois que c'est quelque chose... C'est facile de partir dans des considérations très politiques à ces sujets-là. Et c'est pas le but de l'émission, donc je vais pas forcément le faire. Mais c'est vrai que souvent, quand on parle de cette flexibilité de l'emploi, on a tendance à voir le côté sombre de la médaille, qui existe évidemment, mais pas le côté positif. Donc bon, tu le rappelles, Jeff, et tous les deux, vous avez fait une bonne explication de tout ce sujet, et vous êtes des experts, et je pense qu'il faut écouter les experts, pas forcément d'ailleurs avec des avis complètement accordés, hein, l'un et l'autre, mais c'est une bonne discussion à avoir, donc je ne ferai pas plus.
Je sais pas de politiser. Je dis simplement que
Non, bien sûr. Je sais que à chaque fois qu'on parle de ces sujets, il y a des auditeurs qui se disent ah voilà machin capitalisme et d'autres d'ailleurs qui sont. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont auditeurs de l'émission. Donc je précise quand même la chose parce que il faut le comprendre. Il faut comprendre ce que tu dis, Jeff, pour ce que c'est. C'est-à-dire on parle pas de capitalisme ou de socialisme. On parle de pragmatisme là. Alors ensuite, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Hein. C'est tout à fait
pour
tout
les
à
startups. N'oubliez
jamais un truc. Le plus gros business angel de France. N'oubliez jamais un truc. Le plus gros business angel de France, c'est Pôle Emploi. sans Pôle Emploi, il y a plein de startups qui se montraient pas parce que tout à coup, ça donne à de jeunes entrepreneurs un runway, comme on dit, une piste de décollage de 18 mois pendant laquelle ils peuvent continuer à manger des pâtes, mais enfin à manger quand même.
Oui. Bon, on va passer sur le rapport Lemoine qui est 180 propositions pour adapter l'économie française à la transformation numérique. Moi, j'aurais tendance à dire un rapport de plus, mais bon.
Jeff, faut savoir, quand faut tu savoir qui le fait. Hein. Non, c'est Philippe Lemoine, c'est l'un des patrons du. Ah, oh, flûte, ça me reviendra, mais tu comprends, j'ai dormi 2 heures. Enfin, c'est quelqu'un qui sait. Donc, évidemment, ça fait 180 propositions, ça peut sembler beaucoup, mais ça reprend surtout des choses qu'on avait déjà entendues par ailleurs, justement, sur la lisibilité et la simplification.
Oui, tu dois partir, Jeff, on va te libérer. Bah, merci beaucoup d'avoir été là et de nous faire profiter de ton expérience encore une fois. Et puis, on se donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode avec toi.
Avec grand plaisir. Et Patrick, encore une fois, bravo pour avoir pris la voie de l'entrepreneuriat. Et j'espère que je pourrai te voir à Paris en décembre pour te payer un café pour supporter ton entreprise. Et Cédric, c'était
beaucoup,
un plaisir, comme d'habitude.
Comme toujours.
On se croisera à le web, je suis sûr.
Allez,
ciao, Jeff.
Salut à tous. Ciao, ciao.
Salut. Oui, donc effectivement, c'est sûr que il peut y avoir des propositions intéressantes, mais c'est pas le premier à faire des rapports. Enfin, comment dire, c'est pas que je me méfie de ce genre d'initiative. C'est juste que on en voit tellement passer qu'au bout d'un moment, on devient un petit peu insensible. La question de la French Tech et la question des rapports multiples. Et ça veut pas dire qu'il en faut pas. Il faut des rapports. Il faut qu'on demande aux experts, justement, c'est ce que je disais, et qu'on écoute ce qu'ils disent. Mais à force de les voir passer, on se dit que c'est un petit peu vain. Et puis on a envie. On se dit, il y a des gens qui ont le feu sacré en France, justement. Il y a des gens qui sont... on a une recherche fondamentale qui est fantastique. On a des informaticiens qui sont vraiment passionnés. On a des entrepreneurs. Et j'ai l'impression qu'on passe plus de temps... Droite ou gauche, hein, c'est même plus une question politique à ce niveau-là. Plus de temps à faire des rapports et des labels... qu'à vraiment s'intéresser à au moyen de soutenir concrètement. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'on passe toujours par. Ça devient un sujet hyper complexe et on pourrait toucher à la neutralité du net aux États-Unis où il y a des grandes discussions qui sont en train d'avoir lieu, et moi j'ai un bon ami qui s'appelle Tom Merritt, qui fait une émission tech ou à laquelle je participe, et on a eu, quand j'étais aux États-Unis, je suis resté chez lui pendant quelques nuits, et on a eu une grande discussion très animée sur la neutralité du net. Et pour moi, la neutralité du net est un principe tellement fondamental que j'étais pour le fait de légiférer sur la chose. Et lui n'était pas pour, et pourtant lui,
tu es sur la ligne Obama.
Non, exactement, voilà, qui a annoncé d'ailleurs qu'il voulait reclassifier les FAI aux États-Unis. Et bref, ça impliquerait tout un tas de choses. Et moi, je disais oui, c'est bien parce que c'est un principe tellement important que il faut l'inscrire dans le marbre. Et lui, qui est pourtant un démocrate, hein, qui est plutôt, enfin, généralement plutôt démocrate, plutôt du côté social du spectre politique américain, il me disait bah non, je suis pas tellement pour parce que le vrai problème, c'est que c'est un manque de concurrence, en fait, au niveau des FAI aux États-Unis. Et si on relance la concurrence, on n'a pas besoin de légiférer sur cette question. Et pour moi, c'était une incompatibilité logicielle, presque, dans mon cerveau. C'est-à-dire que, avec mon esprit de gauche en France, parce que, quoi qu'on dise, la France est à gauche du spectre politique européen, qui est à gauche du spectre politique atlantique. Et dans mon esprit, c'était compliqué à réconcilier cette idée de me dire, mais c'est une idée importante et on va pas légiférer dessus, mais pourquoi? Comment ça marche? Et lui, ce qu'il me disait, il m'a presque convaincu finalement, c'est que les lois et le contrôle du gouvernement arrivent avec d'autres choses. Ça amène de la lourdeur, ça amène de la difficulté à changer après, ça etc., etc. Et donc, c'est pas qu'il veut pas légiférer. Au contraire, il est tout à fait pour l'intervention du gouvernement dans certains cas. Mais ce qu'il disait, c'était si on peut résoudre le problème sans légiférer, autant essayer ça en premier. Et légiférer en dernier cours, quand vraiment on n'a plus le choix. Et là, en l'occurrence, il pensait qu'on avait encore une option, qui était le fait d'encourager la compétition et la concurrence par différents moyens. Et je comprends un petit peu, enfin, le fait de discuter de ce genre de choses et de s'ouvrir un petit peu à d'autres vision de ce genre de problème, c'est assez enrichissant, et je comprends ce qu'il veut dire. Et en l'occurrence, pour revenir à cette conversation qu'on avait à l'instant, j'ai l'impression qu'on se tourne, et là on tombe dans les clichés, mais il n'empêche qu'il y a un fond de vérité, on se tourne toujours vers le gouvernement pour se dire, alors c'est le rôle du gouvernement de faire tel et tel et tel et tel truc. Et je sais pas si, en l'occurrence, le marché des startups et le marché de la tech, c'est forcément la bonne solution de se dire, alors le gouvernement doit faire des aides gouvernementales, des aides à l'embauche, des aides à ceci, faciliter les choses ici et là. Dans ce cas-là, je me demande s'il n'y a pas peut-être d'autres moyens de dire aux entreprises, ben, vous avez le champ libre. Enfin, je sais pas, j'ai pas la solution, mais c'est juste que ce genre d'initiative, la French Tech, le label French Tech et les propositions machin, qui sont pas mauvaises en eux, elles sont peut-être bien, mais bon, à force, je perds un petit peu l'espoir. C'est peut-être mal, c'est peut-être juste moi, mais voilà. Cédric, un commentaire sur la chose peut-être, ou alors on passe à autre chose?
J'ai une bonne nouvelle pour Tom Merritt, c'est que vous allez vous réconcilier parce que vous avez tous les deux raison. non, mais c'est vrai.
Non,
parce
mais
que
je suis d'accord. Oui.
Il a parfaitement raison en ce que le marché américain est un marché horrible pour les télécoms. C'est terrifiant. C'est-à-dire que regarde combien coûte un abonnement au câble là-bas, du haut débit que tu as ou que tu n'as pas. C'est quand même, c'est toujours la même histoire que je raconte. C'était il y a 4 ans après le premier iPad. Oui, c'est ça. Je prends, comment s'appelle, Caltrain, qui est ce petit train qui traverse la Silicon Valley, qui part de San Francisco, qui va jusqu'à San José et après. Et j'étais tout content parce que j'avais un iPad avec une puce 3G dedans. Donc c'était chouette. J'étais dans mon train et je regardais, je faisais mon mail, j'allais sur Internet. Et tout à coup, plus de connexion. Pourtant, j'avais une puce AT&T, tu vois, le plus grand provider du coin. Et je lève les yeux et j'étais à la station Menlo Park. Menlo Park, c'est le coin de la Silicon Valley où il y a tous les capitaux risqueurs qui sont là. En gros, c'est quasiment l'un des codes postaux les plus chers des États-Unis. Et pourtant, il n'y avait pas de connexion 3G. Pourquoi? Parce que de fait, il y a assez peu de concurrence et c'est largement pire sur le fixe. Là-bas, ils ont fait un Yalta où il y a à l'ouest Comcast et à l'est Time Warner, qui sont les deux fournisseurs câbles, les deux grands fournisseurs câbles du pays. Et il n'y a pas de concurrence, hein. Ils se sont partagés le pays. Donc forcément, vu de France, où il y a une concurrence qui est réelle, on peut pas comprendre la situation dans laquelle ils sont. Pourquoi est-ce qu'il y a de la concurrence chez nous ? Eh ben, c'est parce que la loi est intervenue. C'est parce que le législateur a décidé, par exemple, que on est parti d'une infrastructure publique qui était celle de France Télécom, qui avait tiré du fil de cuivre toute la France pour coter une prise téléphonique. Et ben, pour que l'internet se développe chez nous, ils ont dit vous allez pouvoir dégrouper, c'est-à-dire que vous allez pouvoir passer par le réseau de France Télécom en rétribuant France
Télécom. En fait, l'infrastructure et les services sont séparés et les gens qui gèrent les deux sont séparés, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis.
Exactement. Et c'est ça qui a fait exploser l'internet à la française. C'est ça qui a permis l'émergence de plein d'acteurs et plein d'innovations et des choses qui, quand je les raconte à mes amis américains, ils ont la mâchoire qui se décroche.
Ah oui, c'est sûr. Mais c'est marrant parce que
la semaine dernière, j'ai des techniciens de Free qui sont passés à la maison pour me tirer la fibre jusqu'à la même Freebox que j'avais déjà et ça me coûte pas plus cher qu'avant. Tu te racontes ça à un Américain, il s'évanouit.
Mais c'est marrant. Alors effectivement, quand tu
as les appels de machin, la télé, etc., un gigabit de connexion, etc. Bon, ça marche pas encore. Si Free écoute, j'attends toujours le petit adaptateur fibre pour ma box.
Mais effectivement, quand tu dis on a tous les deux raisons, ce qu'il préconise, c'est ça aussi. Parce que le grand débat qui a lieu aujourd'hui aux États-Unis, c'est la reclassification. On en avait parlé à l'époque, mais la reclassification des FAI selon le titre 2, ce qu'ils appellent le Title 2, qui a d'autres conséquences aussi. C'est ce que les détracteurs de cette solution veulent éviter. Mais par contre, ce que préconise Tom Merritt et d'autres, hein, bien sûr, c'est une solution peut-être effectivement à la française de dégroupage qui a si bien marché pour nous. Donc, et là, évidemment, ça nécessiterait une intervention de l'État. Donc, c'est pas non plus quelque chose de totalement séparé de l'intervention de l'État. On est d'accord. Bon, continuons.
Oui, ça
ne
sera pas
des...
tout seul parce que c'est terriblement c'est compliqué de créer de nouveaux géants, surtout quand les géants existants se sont partagés le marché avec une efficacité redoutable et que les plus grosses dépenses de lobbying au Congrès américain, c'est Comcast et Time Warner.
Donc, ça va être difficile
de faire bouger les lignes sans réelle volonté politique. Sauf à ce qu'il y ait une révolution des télécoms, je sais pas, quelqu'un qui arrive en lançant 5 satellites en l'air à couvrir tout le pays avec du gigabit pour tout le monde, mais ça, c'est pas pour tout de suite.
Ou alors,
par exemple, que Google décide que son modèle économique, finalement, ça reste de te vendre de la pub, enfin, de t'afficher de la pub et qu'ils peuvent l'amortir même en te fournissant une connexion Internet. Et c'est vrai que quand Google s'est mis à tirer du gigabit à Kansas City et ailleurs,
AT&T s'est réveillé, quoi.
Oui, mais ça, c'est vraiment l'équilibre du pouvoir, c'est l'équilibre de la terreur. Sûr. Entre Google et les opérateurs, c'est aussi une manière de leur dire vous allez me laisser travailler tranquillement, d'accord ? Parce que sinon, moi j'ai le doigt sur la détente.
C'est assez ironique en fait cette situation, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais en fait, aux États-Unis, qui est le pays du capitalisme, on n'a plus de concurrence dans ce domaine, parce qu'il y a effectivement une situation de duopole, avec quelques FAI en plus, mais concrètement, il n'y a pas de concurrence. Et en France, on a une concurrence sauvage qui est extrêmement bonne pour le consommateur.
Mais c'est ce que les Américains ne comprennent pas. Ils le voient d'assez loin, mais.
Mais quand je leur raconte, les États-Unis
sont un pays pourri pour la concurrence, c'est-à-dire que
pour les télécoms en tout cas, quoi.
Mais pour plein de choses, pour la santé aussi, ils dépensent quoi ?
C'est
17% de leur PIB dans la santé, c'est-à-dire quasiment deux fois ce qu'on dépense nous pour un service rendu qui est un petit peu inférieur. Je rappelle que les États-Unis sont derrière tout le reste de l'OCDE en termes de mortalité infantile. Enfin,
on est d'accord, ils sont
arrivés dans des situations où la concurrence pure et parfaite, tu vois, le keynésianisme, on n'y est pas du tout, quoi.
Oui. Non, c'est certain. Et moi, quand je suis là-bas, effectivement, je dois leur expliquer comme les choses fonctionnent dans nos pays, où quand on leur dit socialisme, ils ont l'impression de voir le diable qui sort ses cornes, et comme les choses marchent mieux dans certains domaines, dans nos pays à nous, y compris la sécurité sociale, la connexion Internet, enfin, qui sont des choses importantes quand même. Bref, bon, ça serait un débat extrêmement intéressant à avoir que celui de la concurrence et du capitalisme aux États-Unis et de ce qu'il en reste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'écosystème système tech et start-up, ça fonctionne mieux dans la Silicon Valley et là-bas en général. Donc, bref, continuons avec une triste nouvelle, ou en tout cas une annonce ou une rumeur qui commence à gronder. La future mort de Google Glass la version grand public sortirait seulement en 2015, et surtout il y a plusieurs employés de là-bas qui ont commencé à partir, et même Sergey Brin ne les porte plus tellement, ces Google Glass. Est-ce que ça veut dire que c'est terminé? Franchement, ça sent pas très bon. Moi, j'ai jamais été hyper fan du projet Google Glass. Les auditeurs assidus s'en souviendront. Là, on a l'impression qu'ils n'ont pas trouvé l'utilité de l'appareil, en tout cas.
Non, mais c'est-à-dire que je pense qu'il y avait énormément d'attentes. À chaque fois, souviens-toi, enfin, à chaque fois que Google sort quelque chose, tout le monde se dit, bon, est-ce que c'est quelque chose qui va plaire et qui va être utilisé par un milliard de personnes? Dans le cas de Google Glass, la réponse dès le début était non. Alors évidemment, ça posait plein de questions. Et d'ailleurs, ils avaient été assez lucides sur le sujet quand ils avaient dit, attendez, regardez ce qu'on vous sort aujourd'hui, c'est l'édition Explorer. C'est-à-dire que vraiment, on est en train de défricher un nouveau continent de l'interaction utilisateur.
Édition non Explorer qui viendrait ensuite. Ils ont quand même laissé entendre que ça allait arriver et que ça allait rendre plein de services à plein de gens. En l'occurrence, on a l'impression qu'ils l'abandonnent un peu. Ce qui est normal parce qu'ils ont essayé, c'est bien. Et puis ils ont vu que ça marchait pas. Peut-être qu'ils s'en séparent un petit peu. C'est bien qu'ils aient essayé. On va pas non plus les condamner pour ça. Mais bon, c'est intéressant de constater que.
Oui, mais moi je l'ai jamais vu comme quelque chose de très grand public. J'ai essayé, bien évidemment. Je l'ai jamais essayé au long cours. Hein. Je le ferai peut-être un jour, mais c'est vrai que c'est un petit côté. C'est-à-dire que ça marche à partir du moment où il y a plein de gens qui l'utilisent. C'est-à-dire que sinon t'es le seul glass hole dans l'assistante. Ouais. Puis en plus, je sais pas, t'as coupé, les gens ont peur que tu prennes des photos d'eux ou que tu prennes des vidéos. Enfin, c'est un peu particulier alors qu'on a tous un téléphone à la main tout le temps. Bon.
Je
leur reconnais le mérite d'avoir vraiment essayé des trucs et puis d'avoir inventé l'interface qui est vrai, c'est magnifique. Là aussi, ça demande à être affiné. C'est un peu comme Oculus Rift où ça marche mieux quand tu augmentes la résolution. Et puis, il faudra arriver à réduire le prix. Enfin, il faudrait que ça devienne un genre de sous-entendu. En gros, faut qu'on arrive à te l'implanter directement. Je pense que ce sera. C'est ça. On t'implante un truc, on greffe un truc sur le nerf optique. Et puis voilà, et en plus tout à coup tout ça est d'une discrétion parfaite, et ça tombe bien parce que l'homme qui lui a 3 milliards va ressortir au cinéma.
Ah bah voilà, exactement. Il portera des Google Glass dans les nerfs optiques. Nokia est en train de préparer quelque chose au moment où vous entendrez cet épisode, ça sera sans doute annoncé. Donc Nokia qui nous tease un petit peu quelque chose, entre guillemets, on verra ce que ça donne. YouTube qui annonce...
Faut le dire, Nokia, ils ont lancé l'invitation et tu vois une espèce de petite boîte noire avec marqué Nokia dessus. Un peu comme s'ils avaient rebrandé une Apple TV.
Ça ressemble un petit peu, effectivement.
Donc, je pense que de fait, c'est un truc que tu vas connecter à ton téléviseur parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre. Ou alors, c'est un PC. Mais alors qu'il ferait la taille d'un NUC, hein, tu sais, le New Unit of Computing, petit PC d'Intel, qui sont merveilleux, hein, c'est des super, super machines pour pas cher. Mais donc voilà, soit Nokia lance un PC, alors là, c'est étonnant, soit c'est un truc à connecter à ton téléviseur pour en faire une extension de ton mobile, et c'est quelque chose qu'on aurait déjà vu par ailleurs, chez Apple, chez Google, chez Amazon et ailleurs.
YouTube annonce un service de musique payant, YouTube Music Key. On en avait entendu des rumeurs pendant assez longtemps. Les invitations à la bêta arrivent aujourd'hui, donc lundi, et ça coûte $8 par mois dans 6 mois, quand la bêta sera terminée. C'est arrivé, c'est disponible. On vous laissera juger sur pièce quand on aura les premiers retours.
Faut dire que YouTube, c'est le plus grand service de musique au monde, hein, déjà aujourd'hui. Hein.
C'est vrai.
Pour les jeunes, YouTube, ça sert à écouter de la musique parce que tu peux faire tes playlists avec des clips officiels ou piratés, mais enfin, peu importe. Quand t'es jeune, rien à foutre. et en plus, c'est gratuit et ça marche même sur le mobile. Donc voilà, je pense que là aussi, ils raccrochent leur wagon à un train qui était déjà en mouvement.
C'est vrai. On va passer sur Taylor Swift et ses déboires avec Spotify. Et on va parler de Spotify pour conclure. Une petite news qui, moi, m'a fait bien plaisir, ou en tout cas une rumeur. On a trouvé des informations dans le code des dernières versions de Spotify qui laisseraient entendre que, en plus de leur partenariat avec Uber, dont on a entendu parler récemment, ils auraient l'intention de lancer une section podcast dans Spotify. Et après les articles qu'on a vus dans différents journaux grand public sur le retour des podcasts, dont on avait parlé il y a quelques semaines déjà, Spotify serait en train de s'y intéresser aussi. Et avec Deezer qui a racheté un service de podcast qui s'appelait Stitcher Radio, ça fait de plus en plus de monde qui s'intéresse aux podcasts. Évidemment, moi, ça me fait très plaisir. Et vous, vous, chers auditeurs qui nous écoutez, vous pourrez dire, quand le podcast aura envahi le monde, que vous y étiez au début.
Non, mais c'est drôle parce que c'est la seule chose qui, moi, me manque dans Spotify depuis le début. Moi, je suis un abonné de la première heure de Spotify. Et c'est vrai que la simplicité absolue, que ce soit sur ton mobile, sur l'application Mac, etc., de trouver un morceau de musique, à chaque fois, je suis frustré en disant « Mais pourquoi il n'y a pas des podcasts là-dedans » En plus, ce serait pas bien compliqué pour eux. Hein. C'est pas à mettre en place. Hein. Faudrait juste pouvoir envoyer ton XML. Enfin bref, on l'a fait simple. Et juste pouvoir dire « Voilà, LRDV, boum, ah voilà, le dernier épisode plaît et ça y est, ça marche, j'entends pas. » Patrick, ce serait quand même plutôt pas mal. Et puis, pouvoir les synchroniser sur son mobile, etc., etc. Je pense que là, ça mettrait un petit coup à iTunes ou à l'application podcast d'Apple, qui est adéquate, disons-le, et puis qui quand même, je pense, par exemple, toi, t'amènes énormément de trafic. Enfin, il y a un avant-après l'application Apple Podcast sur iPhone. Voilà, oui, il y a une logique éminente à ce qu'ils mettent d'autres contenus que de la musique. D'ailleurs, il l'avait dit dès le début.
Oui, et puis ils cherchent à amener de la valeur et les podcasts, c'est facile parce que c'est gratuit et puis c'est facile à implémenter. Donc effectivement, ça rajoute de la valeur à Spotify parce que les gens y passent plus de temps, utilisent pour plus de choses. Donc ça serait logique, mais bon, c'est encore qu'une rumeur. On espère que ça arrivera assez vite. Et c'est sur cet espoir que nous concluons l'émission. Et je vais évidemment, avant de refermer cet épisode, proposer à Cédric de nous dire où on peut le retrouver sur Internet et ailleurs. Peut-être que s'il y a des gens qui sont à Tokyo, ils vont venir t'espionner, te épier à la gare de Akihabara. Où est-ce qu'il faut aller pour avoir encore plus de Cédric Ingrand?
Sur Twitter, @Cédric, plein écran sur LCI, première diffusion à 10h40 le samedi si vous levez pas trop tard. Et sinon, vous pouvez retrouver toutes les émissions sur la page Facebook de l'émission. Vous cherchez plein écran LCI, vous retrouverez, on met toutes les rediffs là, ou sur votre box favorite où nous sommes en replay. Et puis voilà. Et oui, sinon, je suis à l'hôtel REM à Akihabara. Vous allez au 6e étage à l'accueil, vous demandez Cédric Ingrand. Sa chambre est au 18e, on ira boire un verre. Enfin, ou alors vous m'envoyez un message sur Twitter et je descends. Je dis ça parce que j'étais déjà ici il y a 5-6 semaines pour un autre salon et sur Twitter, je vois un petit message passer d'un garçon que je connaissais pas qui dit « Oh, je viens de voir Cédric au salon, machin, j'ai pas osé aller dire bonjour ». Et j'ai répondu en disant « faut pas faire son grand timide comme ça ». Et c'était un garçon charmant, un Français qui habite ici et du coup, on est allé dîner ensemble.
C'est quoi son prénom ?
Flûte.
Parce que moi, ça m'était arrivé l'année dernière aussi. J'ai rencontré une ou deux personnes comme ça au Japon qui étaient très sympas. Et c'est marrant, hein, la manière dont se passent les rencontres aujourd'hui avec les réseaux sociaux et l'informatique. C'est la modernité, ça.
Il s'appelle Josias et est absolument charmant. Non, il fait de l'immobilier de vacances à Tokyo. Donc en plus, il a plein de bons plans, mais.
Intéressant, tu me fileras son adresse. Bon, très bien, donc si vous voulez faire ça, c'est @Cédric sur Twitter. Pour ma part, c'est @NotPatrick, vous le savez bien. Si vous voulez avoir plus de d'émissions, eh ben vous savez que j'en ai lancé, comme je le disais, une nouvelle sur frenchspin.fr. C'est le rendez-vous jeu et ça parle donc, comme on le disait, de jeux vidéo. Si vous êtes fan de ça, ça pourrait vous intéresser.
C'est très bien. Je dois dire que je l'ai pas écouté. Hein. Je suis forcé de voilà, oui. Un aveu. Mais Guillaume Delalande, mon expert maison qui est dans la chambre d'à côté, me dit que vraiment, vraiment, c'est très, très bien.
Ah, bah, ça me fait très plaisir. J'essaye de... Alors, évidemment, il faut être intéressé par les jeux vidéo pour s'y intéresser, mais j'essaye de faire quelque chose d'assez accessible et d'assez synthétique et d'assez analytique, comme pour le Rendez-vous Tech, d'où le nom. Et je pense que, même si vous n'avez jamais été intéressé par des podcasts de jeux vidéo, si vous avez déjà joué un petit peu dans votre vie, vous intéressera peut-être. Surtout que le premier épisode, c'est, comme je le disais, l'état des lieux général, où on passe en revue toutes les différentes consoles, les différentes plateformes d'ailleurs, et on essaye de dire à quel type de joueur ça pourrait convenir, etc., etc. Donc, il y a des gens très très bien qui sont avec moi dans ces émissions. Donc, merci beaucoup Cédric, c'est très gentil. Et tu remercieras Guillaume.
Ce sera fait.
Et donc, frenchspin.fr pour tout ça. Vous pouvez aussi retrouver le Patreon si vous pensez que l'émission a une valeur pour vous. Eh bien, c'est sur patreon.com/rdvtech. Vous avez les liens un petit peu partout. Et puis voilà, on se retrouvera dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, on vous fait d'énormes bises. Je remercie tout le monde et surtout mes patrons, mes patriotes. Et on se retrouve dans 2 semaines. Ciao à tous!